Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission proposée et animée par l'Astroclub du Marsan, les Landes et du Ciel. Je m'appelle Yves DeAngeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek.
Bonjour.
Michel Dauphin.
Bonjour à tous.
Et Marine Abret.
Bonjour.
Maintenant, intéressons-nous à tous ces points lumineux que nous voyons dans notre ciel lors d'une soirée dégagée. Tous ces points sont des étoiles. Quelques 2500 sont visibles avec de bonnes conditions, en dehors des villes. L'immense majorité de ces étoiles appartient à notre galaxie, qui comporte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. L'univers comporterait jusqu'à 2000 milliards de galaxies, quelques centaines de milliards de galaxies importantes et le reste des galaxies naines qui comporteraient des dizaines de milliards d'étoiles. Et nous ne voyons que notre environnement proche, le bras d'Orion, qui est aux deux tiers extérieurs de la galaxie. On n'est même pas au centre, on est sur un côté. Et notre étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est à 270 000 fois plus loin que le Soleil. C'est-à-dire que ce sera très très compliqué pour y aller. Si on voulait y aller, en prenant un Concorde, il nous faudrait un peu plus de 2 millions d'années pour y aller. Si on prend la sonde qui va le plus vite dans l'espace, elle va quand même à 635 000 km/h, il nous faudrait à peu près 7 000 ans pour y aller. Alors qu'est-ce qu'une étoile ? Nous avons vu dans notre précédente émission comment le Soleil est né de la nébuleuse de matière, voguant dans l'espace. C'est le même mécanisme qui s'applique à toutes les étoiles. Une étoile est un corps céleste fait de plasma, d'hydrogène et d'autres composés qui rayonnent sa propre lumière par un système de réaction de fusion nucléaire ou des corps qui, à un moment, ont été dans cet état et qui se sont éteints, comme les naines blanches ou les étoiles à neutrons. Ça veut dire qu'il nous faut une masse minimale pour pouvoir démarrer une étoile. Et ces masses, elles sont considérées être à, en gros, 0,0809 fois la masse solaire. C'est-à-dire que notre Soleil, il a assez de masse pour démarrer, c'est une étoile normale. Mais on pense qu'il y a aussi une limite supérieure où, dans ces cas-là, une étoile ne peut pas excéder une certaine taille. On pensait que c'était entre 120 et 150 fois la taille du Soleil, mais des récentes découvertes, on a trouvé des étoiles qui étaient 320 fois plus grosses que le Soleil. Donc le mécanisme qui a permis le démarrage de ces étoiles, pour l'instant, n'est pas encore complètement connu.
Alors, les étoiles se groupent. Elles semblent ne pas aimer la solitude. Beaucoup d'entre elles que vous voyez uniques dans le ciel, eh bien, elles sont doubles en réalité, voire triples et même plus. Et elles sont liées gravitationnellement. Par exemple, la fameuse Proxima du Centaure dont on vient de parler, eh bien, c'est notre plus proche voisine. Elle fait partie d'un trio appelé Alpha du Centaure. Et puis, il y a les amas d'étoiles, dans lesquels les étoiles sont liées par la gravité. On distingue les amas ouverts, les associations et les amas globulaires. Dans les amas ouverts, on trouve en général des étoiles jeunes qui proviennent du même nuage et elles sont encore liées gravitationnellement. Par exemple, les Pléiades ou les Hyades. Mais elles ont un mouvement propre et elles s'éloignent les unes des autres. Au fil du temps, elles deviennent des associations d'étoiles. Leur mouvement propre montre qu'elles proviennent du même nuage, mais elles ne sont plus liées par la gravité. Les amas ouverts et les associations se trouvent dans les galaxies. J'insiste, à l'intérieur, dedans, comme dirait l'autre. Mais elles se dissipent en quelques millions d'années, ce qui fait leur différence avec les amas globulaires. Les amas globulaires sont plus massifs. Leurs étoiles sont plus fortement liées par la gravité. On ne les trouve pas dans, mais en dehors du plan des galaxies, dans le halo. Ce sont peut-être les vestiges centraux de petites galaxies avalées précédemment, depuis très longtemps. D'une densité plus élevée au sein de la galaxie haute, elles sont éjectées vers le halo. Leur durée de vie peut excéder quelques milliards d'années. Par exemple, Messier 13, de la constellation d'Hercule.
Donc du coup, quand tu parles d'amas, d'étoiles, etc., les constellations qu'on connaît, ou même la Grande Ourse, etc., ça veut dire qu'elles gravitent de la même façon depuis des milliers d'années, elles ne bougeront pas, c'est pour ça qu'elles restent comme ça et qu'on arrive à les voir depuis toujours ?
Alors c'est une bonne question, mais c'est faux.
Ah voilà, mais c'est très bien que je me trompe.
Les constellations qu'on voit dans le ciel ne font pas forcément partie d'un même amas. Au contraire, elles peuvent être très très éloignées les unes des autres et faire partie d'amas différents. Mais c'est notre vision de ces étoiles dans le ciel qui semble nous dire qu'elles sont ensemble. Mais non, ça n'a rien à voir.
Oui, pour expliquer quand même la genèse un petit peu des étoiles, il faut remonter pratiquement juste après le Big Bang, où se synthétisent les premières briques de l'univers, à savoir les atomes les plus simples qui existent dans l'univers, à savoir l'hydrogène, l'hélium et quelques traces de lithium. Aucun élément plus lourd n'est formé à ce stade-là. Aujourd'hui, on constate que 74% de l'univers, en masse, est composé d'hydrogène et environ 24% d'hélium, formant ainsi, comme l'a rappelé Yves, de vastes nuages moléculaires composés essentiellement d'hydrogène. 250 à 350 millions d'années après le Big Bang, une première génération d'étoiles va apparaître dans ces nuages moléculaires géants. Je rappelle quand même que sous l'effet de la gravitation, ces immenses nuages s'effondrent sur eux-mêmes, ils se contractent et se mettent en rotation. Et sous l'effet de la contraction, le gaz se densifie, est de plus en plus comprimé et commence à s'échauffer. La pression augmente, s'oppose de plus en plus à la densification. Les noyaux d'hydrogène entrent en collision entre eux et le gaz s'échauffe de plus en plus. Lorsque la température dépasse 10 millions de degrés, la fusion nucléaire ou encore nucléosynthèse qui forme l'hélium à partir des noyaux d'hydrogène se déclenche et l'étoile va s'allumer. Elle commence à briller dans le ciel. Une étoile est donc en fait une boule de gaz à l'état de plasma en équilibre hydrostatique entre la gravité qui tend à la contracter sur elle-même et la pression exercée par des réactions très exothermiques qui se déroulent en son cœur et qui s'opposent à la gravitation, ce qui lui donne finalement une forme sphérique. Ainsi naît la première génération d'étoiles. Ces étoiles primitives, c'est vrai qu'on en sait assez peu, mais elles étaient très différentes de celles qui sont nées ensuite. Il s'agit d'étoiles extrêmement massives, de 100 à 1000 fois plus que le Soleil, est très lumineuse, très chaude, 100 000 degrés, alors que le Soleil n'est qu'à 5 000 degrés. Avec pour conséquence sur leur durée de vie, qui est très courte, car elle brûle la chandelle par les deux bouts. Qu'est-ce qui va se passer finalement à l'intérieur de cette étoile? Le cœur d'une étoile est donc une zone très dense et très chaude. Ces conditions permettent d'entretenir des réactions de fusion nucléaire qui transforment l'hydrogène en hélium. Comment ça marche? Les atomes d'hydrogène sont les plus simples avec un proton et un électron. Dans la physique, les protons ayant la même polarité ont tendance à se repousser mutuellement. Mais l'énorme densité du noyau de l'étoile leur permet d'acquérir suffisamment d'énergie cinétique pour qu'ils puissent fusionner. Comment ça se passe dans cette fusion? Un processus assez complexe se met en œuvre, mais je vais quand même en résumer un de ses aspects. 6 atomes d'hydrogène, un proton, un électron, je rappelle, fusionnent pour donner un atome d'hélium contenant 2 protons, 2 neutrons et 2 électrons. Dans ce processus complexe, 2 protons se transforment en 2 neutrons et forment avec 2 protons et 2 électrons un atome d'hélium. C'est un isotope qu'on appelle hélium-4. 2 électrons sont libérés et vont se recombiner avec 2 protons qui sont également libérés. Dans ce processus également, 2 électrons vont être désintégrés. Une grande quantité est produite sous forme de radiation, essentiellement des rayons gamma, c'est-à-dire des photons à très haute énergie. On constate au final qu'au repos, la masse de l'hélium produit est inférieure à la somme des masses des 6 atomes d'hydrogène mis en jeu au départ. Cette différence de masse, qui est à l'origine de l'énorme quantité d'énergie produite par l'étoile, elle peut être calculée à l'aide de la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. Une étoile consomme environ des centaines de millions de tonnes d'hydrogène par seconde, qui fait beaucoup, beaucoup d'énergie. Lorsque ce combustible va diminuer suffisamment pour ne plus entretenir des réactions de fusion, la pression va diminuer, le cœur de l'étoile va à nouveau se contracter par effet gravitation, et cette contraction va augmenter une augmentation de sa densité et de sa température, qui va entraîner à nouveau, à son tour, une dilatation de l'enveloppe de l'étoile. Elle va donc grossir. L'enveloppe étant moins dense, elle va se refroidir. Ce qui, pour l'étoile, revient à émettre de la lumière rouge. Le résultat final, c'est qu'on obtiendra une géante rouge. Par contre, le cœur, lui, devient plus dense, et donc plus chaud, et de nouvelles réactions nucléaires vont s'amorcer avec la fusion de l'hélium, qui jusqu'alors était impossible à cause de la répulsion des noyaux d'hélium. La fusion de l'hélium démarre, rétablit un nouvel équilibre hydrostatique. L'équilibre hydrostatique, c'est l'équilibre qui existe entre la pression exercée et la densité à l'intérieur de l'étoile, et génère de nouveaux éléments chimiques, tels que le carbone et l'oxygène. Le même processus recommence lorsque l'hélium commence à manquer. Le nombre de réactions de fusion diminue. Le cœur de l'étoile se contracte à nouveau. Un nouveau cycle redémarre. Des nouvelles réactions avec de nouveaux éléments se font au sein de l'étoile qui s'accélèrent. Ces réactions s'accélèrent, produisent des noyaux de plus en plus lourds. Ainsi de suite jusqu'à la synthèse du fer. Car le fer, dont les protons et les neutrons sont tellement soudés, fait qu'aucune énergie de fusion ne peut plus être arrachée. La fusion nucléaire s'arrête. L'équilibre hydrostatique est rompu et un phénomène ultra rapide qui se produit en quelques millisecondes, quelques fractions de secondes se produit. L'étoile s'effondre sur elle-même. La température grimpe vertigineusement et l'énergie accumulée par la contraction gravitationnelle désintègre les noyaux de fer en produisant des paires électrons-positrons qui évidemment se désintègrent entre eux, des neutrons, des neutrinos, et ou recombinent les électrons, protons, etc. en produisant de nouveaux atomes lourds. Parmi ceux-ci figurent les atomes de fer-60 qui sont un isotope radioactif qui servira comme le carbone-14 de marqueur temporel. L'étoile donc achève sa vie dans une fantastique explosion thermonucléaire, mais en fait, dans ce cas de figure, il s'agit d'une implosion.
Eh bien, on en arrive à la durée de vie. Eh bien, la durée de vie d'une étoile, et là c'est crucial, elle dépend essentiellement de la masse cumulée à la naissance. Une étoile massive entretient un niveau de réaction nucléaire très élevé, très puissant. Elle développe beaucoup d'énergie, mais elle consomme énormément d'énergie aussi, très très rapidement. De ce fait, elle ne vit que quelques dizaines de millions d'années. Une petite étoile, par contre, beaucoup plus sobre, peut vivre des dizaines et même des centaines de milliards d'années.
Dans la production de ces étoiles, on remarque qu'il y a quand même plusieurs types d'étoiles et les astronomes les classent en utilisant la température effective et la luminosité. Cette classification à deux paramètres permet de définir des types d'étoiles, des naines ou encore des géants. Si la plupart des étoiles se placent facilement dans l'un ou l'autre de ces catégories, il faut garder quand même en tête qu'il ne s'agit que de phases temporaires. Au cours de son existence, une étoile change de forme, de couleur et passe d'une catégorie à une autre. Dans ces catégories, on en distingue plusieurs que je vais vous énumérer un petit peu pour les connaître. Tout d'abord, les naines brunes. Les naines brunes, ce ne sont pas vraiment des étoiles, mais des objets substellaires, qualifiés parfois d'étoiles manquées, car ces étoiles ne sont pas suffisamment massives pour pouvoir démarrer la fusion nucléaire. Elles peuvent simplement rayonner, cependant, faiblement par contraction gravitationnelle. On a une autre catégorie, les naines rouges, qui sont de petites étoiles de couleur rouge, et on les considère comme les plus petites étoiles en tant que telles. Elles brûlent lentement leur carburant, ce qui leur assure une très longue existence. Elles sont les plus abondantes, car au moins 80% des étoiles de notre galaxie sont des naines rouges. Les naines jaunes, un exemple des naines jaunes, c'est notre Soleil. Ce sont des étoiles de taille moyenne qui, vers la fin de leur existence, évoluent en géantes rouges. Cette dernière, expulsant ses couches externes, déploie alors une nébuleuse qui va, au sein de la nébuleuse, dévoiler une naine blanche. Les naines blanches sont donc les résidus d'évolution des étoiles de faible masse. Ce sont des étoiles mortes, puisqu'elles ne sont plus lieu de réaction thermonucléaire produisant de la chaleur. Cependant, elles sont initialement très chaudes et de couleur effectivement relativement blanche. Et elles vont finir par des naines noires. Les naines noires qui, comme une plaque chauffante qu'on éteint, les naines blanches se refroidissent inexorablement. Toutefois, cela se fait très lentement. Et elles perdent peu à peu leur éclat pour devenir finalement invisibles au bout de quelques dizaines de milliards d'années. Ainsi, toute naine blanche se transforme en naine noire. Alors c'est vrai que l'univers est vieux de 13,8 milliards d'années, il est encore trop jeune pour avoir produit ces naines noires. La deuxième catégorie dont je voulais vous parler, ce sont les géantes, en commençant par les géantes rouges. La géante rouge annonce la fin de l'existence d'une étoile qui atteint ce stade lorsque son noyau a épuisé son principal carburant d'hydrogène. Ses couches externes gonflent sous l'effet de l'énergie dégagée par la fusion et en gonflant, elle se refroidit et l'étoile rougit. Elle émet dans la couleur rouge. Une autre catégorie qui existe, ce sont les géantes lumineuses, supergéantes, hypergéantes. Sur le diagramme de Ersprung-Russell, un mot difficile à dire et à écrire d'ailleurs, et au-delà d'une certaine luminosité, Les étoiles prennent successivement le nom de géantes lumineuses, de supergéantes et d'hypergéantes. Dans le cas des étoiles géantes, une géante bleue par exemple, en fin de vie, sa température de surface diminue, elle devient, alors selon sa masse, soit une géante rouge ou une supergéante rouge qui finira peut-être en naine. Les supergéantes et les hypergéantes sont quant à elles des étoiles les plus massives et lumineuses du ciel observable. Enfin, des étoiles variables lumineuses. Une étoile variable lumineuse plutôt bleue en général. Il s'agit de géantes d'hypergéantes à luminosité variable qui expulsent occasionnellement de grandes quantités de matière et la luminosité varie donc de façon périodique sur des périodes très courtes et parfois de façon très spectaculaire. Elles peuvent évoluer en étoiles de Wolf-Rayet. Ces étoiles sont très massives et donc, comme je l'expliquais, elles expulsent de très grandes quantités de matière sous forme de vent solaire à haute vitesse, si intense qu'elles forment un nuage autour de celle-ci. Elles ont en général des durées de vie très brèves, seulement quelques millions d'années avant d'exploser en supernova. Enfin, quelques étoiles un peu typiques, étoiles à neutrons. Ces étoiles à neutrons sont très petites mais très denses. Elles concentrent la masse d'une fois et demie celle du Soleil dans un rayon d'environ 10 km. Ce sont des vestiges d'étoiles très massives, dont le cœur s'est contracté pour atteindre des valeurs de densité extraordinairement élevées. Ces objets possèdent des champs magnétiques très intenses, et pour les plus intenses, on parle de magnétars. D'autre part, le moment cinétique de l'étoile étant conservé lorsque l'étoile s'effondre, l'étoile à neutrons possède une vitesse de rotation extrêmement élevée, et pour les plus rapides, pouvant atteindre le millier de tours par seconde, on parle de pulsars. Parfois, le noyau de l'étoile morte étant trop massif pour devenir une étoile à neutrons, il se contracte inexorablement jusqu'à former un trou noir.
Eh bien, donc pour illustrer ce qui vient d'être dit, principalement c'est le diagramme HR, Hertzsprung-Russell. C'est un classement visuel des étoiles qui a été imaginé vers 1910 par ces deux astronomes. C'est un diagramme, donc il a deux entrées. En horizontale ou en abscisse, on met la température de surface des étoiles de 2000 à 40 000 degrés. C'est le type spectral. Des lettres initiales imaginées par une phrase magique donnée par des étudiants va donner des couleurs des étoiles du blanc au rouge. C'est la phrase magique, c'est « Oh, be a fine girl, kiss me ». Yes. En vertical ou en ordonnée, on met leur luminosité ou magnitude en valeur multiple du Soleil, le Soleil égale 1 bien sûr. En y plaçant les étoiles selon les critères qu'on a pu relever, et on trouve la place de chacune et on peut connaître son parcours évolutif et sa destinée. Ainsi, notre Soleil est actuellement dans la séquence principale, zone d'équilibre, mais dans 4 milliards d'années, il entrera dans la branche des géantes rouges avant de rejoindre celle des naines blanches, étoiles éteintes.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. Autour de toutes ces figurantes. point lumineux. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire.
Nous allons parler maintenant du vent solaire. Alors, le vent solaire, c'est comme un souffle provenant du soleil, comme des postillons. Il est fait de particules, des ions, des électrons, de tous les éléments fabriqués par le soleil. Et celui-ci les rejette dans l'espace. C'est le vent solaire qui oriente la queue de plasma des comètes, qui provoque les orages magnétiques sur Terre et qui occasionne les aurores polaires. Les aurores, c'est quand les particules du vent solaire arrivent au niveau de la Terre, eh bien, elles sont captées par les lignes de force du champ magnétique terrestre et réagissent au choc avec les atomes de la haute atmosphère. La couleur des particules du solaire trahit la nature des particules en interaction.
Mais du coup, pourquoi c'est un phénomène polaire ?
Alors, pourquoi phénomène polaire ? Eh bien, les lignes de force du champ magnétique se referment au pôle. Elles y conduisent donc naturellement les particules solaires, d'où concentration. En fonction de la puissance de vent solaire, on verra les aurores plus ou moins loin des pôles, comme en mai dernier. Et la surveillance des éruptions solaires va servir à prévenir et protéger les appareils électroniques terrestres de télécom, de navigation aérienne et les satellites de ces particules très énergétiques.
Oui, pour reprendre le système d'enrichissement des étoiles, pour que la vie puisse apparaître sur Terre, les premières générations d'étoiles ont fourni un certain nombre d'atomes, je rappelle, carbone, néon, oxygène, silicium, ça s'est arrêté au fer, donc il nous manque des éléments pour faire apparaître la vie. L'enveloppe gazeuse, à l'issue de l'explosion de la première génération d'étoiles, l'enveloppe gazeuse formée de tous les éléments, s'est dispersée dans l'espace en quelques dizaines de milliers d'années. Et les nouveaux éléments créés par la première génération d'étoiles va ensemencer les nuages moléculaires déjà présents et rentreront dans la composition des futures étoiles. Ainsi, la deuxième génération d'étoiles qui va succéder va synthétiser elle aussi de nouveaux noyaux encore plus complexes, dont le phosphore, élément indispensable à la vie, et aussi un marqueur temporel qui permet de dater un peu les différents éléments, les événements, marqueur temporel qui est l'aluminium radioactif isotope 26. À l'issue de ce deuxième round, l'univers s'est enrichi à nouveau de divers atomes et le tableau périodique des éléments mis au point par Mendeleïev est pratiquement complet et notamment tous les éléments chimiques nécessaires à la vie sont désormais présents. L'activité stellaire se poursuit avec une troisième génération d'étoiles, enrichie encore une nouvelle fois des atomes de la première et deuxième génération. Parmi celles-ci, notre étoile, le Soleil, est présent et tout est prêt pour l'apparition de la vie sur Terre.
Et comme tu l'as dit, justement, les étoiles, pendant leur cycle de vie, eh ben, elles émettent des radiations. Et, c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Et ce rayonnement cosmique peut être composé de deux parties. On a un rayonnement qui va être un rayonnement électromagnétique avec les rayonnements gamma et les rayonnements X. Et on a le plus compliqué, le plus dangereux, c'est le rayonnement des particules. Comme tu l'as dit, dans les réactions, il y a des particules qui s'échappent lors des réactions et qui sont diffusées dans l'espace. Donc ça peut être des neutrons, des particules alpha, des particules bêta. Ces particules, c'est des noyaux assez lourds et donc ils peuvent interagir fortement avec la matière. C'est ce qu'on appelle des rayonnements ionisants. Et heureusement, la magnétosphère qui nous protège ou qui capte les rayonnements solaires pour faire des aurores et notre atmosphère arrive à bloquer une grande partie en fait, de ces rayonnements. Mais il y a quand même les rayonnements très très énergétiques qui arrivent quand même à passer. Donc c'est très dangereux pour l'homme, pour la totalité de la vie, puisque ça peut casser les molécules, détruire les molécules, ça peut interagir avec les cellules, cellules humaines. Donc ça peut ça peut provoquer plutôt des cancers, destruction de cellules. Et donc c'est très très dangereux. C'est pour ça que ne serait-ce que les pilotes d'avion, ils ont des dosimètres pour mesurer la dose de radiation, de rayonnement solaire qu'ils vont prendre, et que nos cosmonautes, spationautes ou astronautes qui sont dans l'espace, eux aussi, sont suivis pour cette mesure de dose, parce que c'est quand même très très dangereux. Nous, on est protégés par notre atmosphère, mais des planètes qui n'ont pas d'atmosphère ou très peu d'atmosphère, comme Mars par exemple, ce rayonnement a pu stériliser la surface, et donc tous les germes de vie qu'il aurait pu avoir sur ces astres ont été détruits. Un autre élément qui vient du Soleil aussi, c'est le rayonnement ultraviolet qui est dangereux. Donc ça va nous permettre de revenir un petit peu sur la couche d'ozone. L'intérêt de la couche d'ozone, c'est de nous protéger de ces rayonnements UV qui permettent à ce qu'on ne soit pas, brûlé, qu'on n'ait pas d'interaction avec ces rayonnements d'énergie. La couche d'ozone n'était pas présente depuis le début de la naissance de notre planète. On estime qu'elle a commencé à se densifier à la fin de l'Archéen, donc c'était il y a entre 4 et 2,5 milliards d'années. Et donc c'est pour ça qu'avant l'apparition de cette couche d'ozone, la vie ne s'est pas développée sur Terre, elle s'est développée dans l'eau.
Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont une couche d'ozone, à part la Terre ?
On pense que c'est pas forcément de l'ozone qu'on va avoir sur Vénus par exemple. Parce que pour faire de l'ozone, il faut une interaction avec de l'oxygène, du gaz carbonique pour faire ce gaz. Donc elles n'ont pas forcément les mêmes... elles n'ont pas de l'ozone, mais elles peuvent avoir un bouclier qui peut être différent. Donc ça nous protège, cet ozone nous protège. C'est pour ça que tout ce qui avait été fait pour essayer de limiter la destruction de cette couche d'ozone, c'était pour éviter qu'on prenne ces rayons UV plus que d'habitude. Le deuxième effet, c'est que si le rayonnement UV est réussi à rentrer par le trou de la couche d'ozone, il va être piégé à l'intérieur de l'atmosphère et la température globale de la Terre risque d'évoluer.
Donc ça nous vient à parler de la taille des étoiles. On va trouver dans l'univers des étoiles de taille très très différente. Après les étoiles à neutrons, qui font à peu près 15 km de rayon, les plus petites sont les naines blanches, des étoiles mortes, très denses, de la taille de la Terre. Puis, les naines brunes, qui sont des grosses Jupiter, des pseudo-étoiles, les sous-naines et les naines rouges, qui font un dixième du Soleil, comme Proxima du Centaure. Puis les naines jaunes, semblables au Soleil, jusqu'aux géantes bleues comme Spica, 8 fois le rayon solaire. Les blanches comme Sirius, 2 fois le rayon. Les super-géantes blanches comme Deneb, 200 fois le rayon du Soleil. Et puis les hyper-géantes rouges comme Bételgeuse, 950 fois le rayon solaire. Antarès, 800 fois le solaire. La plus grosse étoile connue étant la rouge UY Scuti de l'écu de Sobieski avec 1708 fois le rayon solaire. Elle engloberait l'orbite de Saturne. Ces grosses étoiles exploseront en supernova et donneront des étoiles à neutrons, des pulsars ou des trous noirs.
Et si elles explosent, est-ce que ça aura un impact sur nous ou elles sont beaucoup trop loin ?
Alors voilà, une supernova, on a calculé que si une supernova explosait dans un rayon de 50 parsecs par rapport à notre Soleil, eh bien toute vie biologique sur Terre serait supprimée.
Voilà, super, on va terminer sur ça.
Donc maintenant qu'on a vu un petit peu tout le bestiaire de ces points lumineux qui peuplent notre ciel, vous ne regarderez pas votre ciel de la même façon. Chacun des points, en fait, est différent. Il a une couleur différente, il a une vie différente, il a une taille différente. Donc lors de la prochaine émission, nous verrons les moyens que l'homme a mis en place pour explorer un peu tous ces corps qu'on a vus depuis quelques émissions. On parlera des réussites, des échecs, des découvertes qui nous permettent un petit peu de mieux comprendre notre système solaire et l'élément, le cosmos qui nous entoure. Retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM ou passez nous voir les mardis soirs et vendredis soirs pour partager le ciel. Info sur notre page Facebook, comme d'habitude, Astro Club du Marsan. Bon ciel à toutes et à tous et à bientôt. C'était Les Landes du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.